Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La protection de l'environnement, dans l'article 1er de la Constitution française, Nicolas Hulot le veut, le proposera aux parlementaires. Et Véronique Robérotte nous expliquera ce que cela pourrait changer.
Et puis nous nous pencherons ensuite sur un article des Échos paru ce matin. Le quotidien affirme que les privatisations d'Air France, d'Orange ou même de Peugeot sont étudiées par le gouvernement. La faute à la SNCF, vous le comprendrez.
Donald Trump signe un décret qui met fin aux séparations des familles à la frontière américaine. Les enfants pourront toutefois être emprisonnés avec leurs parents car les contours de ce texte sont flous.
Et puis, retour à la normale annoncée pour la Grèce après 8 ans de crise financière. Qu'en pensent les Grecs? Notre correspondante leur a posé la question.
Après ce journal, Frédéric Seys se penchera sur la baisse de la vitesse à 80 km/h ou le sparadrap qui colle au gouvernement. Et d'abord donc, les mots qui définissent la République française. Ces mots seront peut-être plus nombreux après la réforme constitutionnelle promise par Emmanuel Macron. Et la protection de l'environnement devrait y figurer en bonne place. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, s'est fait hier le porte-voix de l'exécutif, ravi de ce qu'il considère comme une avancée. Il veut inscrire des mots-clés dans l'article 1er de la Constitution.
Il y a encore peu de temps, c'était prévu à l'article 34. Là, on est à l'article 1. Maintenant, la formulation, il faut regarder parce qu'il y a des appréciations juridiques différentes sur la portée, notamment la portée juridique. Personnellement, je souhaite que environnement, climat et biodiversité figurent. Je voulais que la finitude des ressources également y figure, mais ça pose un problème juridique. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça, mais nous aurons dans l'article 1 de la Constitution. Alors après, attendez, c'est le vœu gouvernemental. Puis laisser au Sénat et après à l'Assemblée s'exprimer leurs prérogatives. Mais déjà, ce qui est important, c'est qu'on est passé de l'article 34 à l'article 1. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui avancent. Et essayez de regarder ailleurs dans notre pays, il n'y a pas d'équivalent.
Bonjour Véronique Robérotte.
Bonjour.
Aux côtés de la République indivisible, laïque, démocratique et sociale, aux côtés de l'égalité au sens large, l'environnement pourrait donc trouver une place, encore faut-il la définir.
Voilà, c'est une avancée à condition de ne pas rester au milieu du guet, de trouver la bonne formulation de cet article 1 pour que ce ne soit pas que du greenwashing, comme on dit, constitutionnel inefficace. Alors en plaçant l'environnement dans l'article 1 de la Constitution, les écologistes, et a priori le premier d'entre eux, Nicolas Hulot, espèrent que cela pourra empêcher tout recul sur des politiques qui seraient contraires donc à la défense de l'environnement ou faciliter rapidement l'adoption de certaines mesures environnementales face à d'autres considérations principalement économiques. Alors on peut citer l'exemple de la loi Hulot sur la fin de l'exploitation des hydrocarbures en France. Ce serait interdit en 2040 à cause de la liberté d'entreprendre qui l'emporte dans la Constitution face à cela. Et en l'occurrence, les dispositions aussi du code minier en vigueur, impossible d'aller plus vite sans se heurter à un risque d'inconstitutionnalité. Tout est maintenant donc de la formulation vraiment de cet article 1 pour en faire demain un rempart efficace au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Il faut rappeler que le terme environnement a déjà valeur constitutionnelle grâce à la charte de l'environnement, mais cela n'a pas permis d'interdire par exemple directement les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. La bonne formulation pour les écologistes et Nicolas Hulot serait « la République garantie tout particulièrement la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité dans le respect des limites planétaires », ce qui pose d'ores et déjà donc un problème juridique, a prévenu le ministre de l'écologie, on l'a entendu tout à l'heure. Les discussions commencent vraiment à peine.
Merci Véronique Robérotte. J'ajoute qu'hier aussi, lors du même déplacement en Bretagne, l'exécutif a confirmé les 6 premiers projets de parc éolien en mer française. Un accord a finalement été trouvé entre le gouvernement et les industriels sur le financement de ces projets et le prix de l'électricité fournie. Nous en parlions hier. 2 de ces parcs éoliens seront construits par Engie, électricien, dont les titres, jusqu'à présent détenus par l'État, pourront être cédés, ouvrant ainsi la voie à la privatisation. La Fédération nationale mine énergie de la CGT craint un abandon de la souveraineté gazière par l'État. Elle annonce donc des actions la semaine prochaine. La peur d'être privatisée. Ce matin, le quotidien Les Échos croit savoir que ce type de transfert est envisagé pour d'autres entreprises. Après Engie, donc, les aéroports de Paris et la Française des Jeux. Il serait question d'Orange, d'Air France KLM ou de PSA. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Bonjour Clara.
Des pistes qui serviraient à financer la reprise de la dette de la SNCF.
C'est vrai que c'est une somme considérable qui est en jeu avec cette reprise de dette, quelque 35 milliards d'euros à trouver entre 2020 et 2022, un temps très court à l'échelle économique et financière. Alors l'État lui-même endetté ne voit d'autres possibilités que des cessions de participation dans des entreprises où il est présent, la voie de privatisation au moins partielle. Alors il est prêt avec sa nouvelle doctrine, restons stratèges mais soyons de moins en moins actionnaires. C'est ce qui vient d'être énoncé pour Aéroports de Paris, Engie et la Française des Jeux, mais il faudra aller plus loin vu l'ampleur des fonds à réunir pour éponger la dette de la SNCF. D'où l'idée de se désengager d'Air France KLM, mais aussi de PSA, voire du groupe Orange. Le faire dans des entreprises qui ne sont pas ou plus considérées comme stratégiques, mais en partant d'un principe que ça ne leur porte pas préjudice. Et là, ça devient compliqué. Chez Air France, où le groupe Accor a montré de l'intérêt, on sait que l'opération risque de buter sur la législation européenne. Chez PSA, ça supposerait de faire bouger trois grands actionnaires, pas seulement la famille Peugeot, mais aussi le chinois Dongfeng. Trouver un actionnaire français de préférence stable, eh bien ce n'est pas évident. Chez Orange, il faudrait sans doute trouver un acheteur capable de mettre quelques 9 milliards sur la table. Eh bien voilà, voilà le vrai problème. S'il est avant ses parts, eh bien, c'est que ça tombe dans des mains d'un acquéreur qui ne serait pas très fiable. Et cela peut prendre du temps, sans parler des modalités de cession qui, elles, n'ont rien d'automatique. Vous le voyez, on peut le dire, un dossier sensible.
Jean-Marc Chardon, chef du service économie de France Culture. Nous évoquions la SNCF dont la reprise de la dette sera lourde, source de conflits entre autres avec les cheminots. La CGT confirme qu'elle appellera à de nouvelles journées de grève en juillet et en août. Le premier syndicat de l'entreprise n'a pas communiqué pour l'instant de calendrier précis. Il dit vouloir donner le temps à d'éventuelles négociations avec l'État et la direction. Jean-Jacques Urvoas se défend. L'ancien garde des Sceaux est mis en examen pour violation du secret professionnel par la Cour de justice de la République. Et par l'intermédiaire de son avocat, il dit contester avec détermination une quelconque violation d'un secret protégé. L'ancien ministre de la Justice est soupçonné d'avoir transmis au député La République En Marche Thierry Soler, ancien Les Républicains, de lui avoir transmis des informations sur une enquête pour fraude fiscale qu'il concernait.
Vous écoutez France Culture, il est 8h07. C'est la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal et c'est assez rare. Pour être signalé, Donald Trump fait marche arrière.
Oui, sur la question de la séparation des familles de migrants aux frontières américaines. Après une vague d'indignation mondiale, le président a signé un décret hier soir pour éviter ces situations. Merci d'avoir pris cette décision cruciale. Sur Twitter, Ivanka Trump remercie son père en ces mots. Son père, qui avoue d'ailleurs, et ne riez pas Guillaume, qu'Ivanka Trump et que Melania Trump ont pesé dans cette décision prise par le président. Cela ne veut pas dire que la politique tolérance zéro de la Maison Blanche en matière d'immigration s'assouplit pour autant, car les conditions d'application du texte signé hier restent très floues, Grégory Phillips.
Le décret de 4 pages, signé hier soir par Donald Trump, stipule qu'il faut tout faire pour maintenir l'unité familiale. En conséquence, lorsque des migrants tenteront d'entrer clandestinement aux États-Unis, ils seront interpellés, comme le prévoit la politique de tolérance zéro prônée par l'administration, et placés dans des centres de rétention, mais cette fois en compagnie de leurs enfants. Ces familles resteront dans ces centres aussi longtemps qu'il le faudra, afin que leur cas soit jugé. Problème, la loi américaine prévoit qu'un mineur ne peut pas être placé en rétention plus de 20 jours. Le décret présidentiel prévoit donc d'allonger cette durée, mais cela pose un problème de droit. Il faudrait modifier la loi. Autre difficulté, le manque de place pour ces familles. Pour l'instant, les structures nécessaires pour accueillir des familles complètes ne sont pas en nombre suffisant. Le ministère de la Défense va donc être mis à contribution et est chargé de bâtir des centres de rétention adaptés. Dernier point enfin, la situation des 2300 enfants actuellement éloignés de leurs parents n'est pas réglée. Personne ne sait s'ils pourront les retrouver rapidement. Sur ce dossier des familles séparées, Trump a donc fait volte-face, mais une bataille d'experts judiciaires a déjà débuté pour voir si le décret présidentiel est applicable en l'état ou pas.
Une page est en train de se tourner pour la Grèce. Après 8 ans sous assistance financière, le pays pourrait retrouver son autonomie cet été. En tout cas, aujourd'hui, les ministres des Finances de la zone euro vont chercher un accord en ce sens. Sortie de crise officielle prévue à la fin du mois d'août, sous haute surveillance évidemment, et qui rend les Grecs un peu désabusés, comme l'a constaté à Athènes Angélique Kourounis.
Vassilis Kolkidis a une double casquette. Il est armateur, mais aussi patron des PME de la capitale et sa banlieue. Pour lui, la sortie de la crise annoncée est une bonne chose.
Nous avons certains chiffres encourageants, mais très sincèrement, je crois que le niveau de la croissance n'est vraiment pas suffisant.
Cependant, cet homme d'affaires a des réserves. Pour lui, le gouvernement ne se donne pas vraiment les moyens de réussir.
Ce qui nous intéresse, en fait, c'est de pouvoir dire qu'on a une sortie viable et durable des programmes d'austérité. Un programme de développement national aurait dû être minutieusement préparé ces 8 dernières années.
Chez les fonctionnaires, en revanche, le moral est en berne. Irini Kodaridou, professeur et syndicaliste, est pleine d'amertume.
Dans le milieu où j'évolue, il y a un pessimisme et une colère car rien ne va dans le bon sens. Il n'y a plus d'initiative qui nous pousserait à descendre dans la rue comme entre 2011 et 2013. Et de l'autre côté, dans la société de façon générale, je vois une fatigue. Et ça, parce que la seule chose que le parti Syriza a réussi à faire, c'est de rendre la population pessimiste. Le parti a tenté de nous convaincre que si lui n'avait pas réussi à changer les choses, personne ne pourrait le faire et sûrement pas l'adversaire de Syriza, le conservateur Mitsotakis, que nous craignons, car c'est un ennemi affiché des fonctionnaires.
Si aucune mesure supplémentaire d'austérité ne sera adoptée à l'avenir, les dernières votées cette semaine le seront dès le 1er janvier prochain. Aussi pour les Grecs, rien ne change vraiment, d'autant que la tutelle économique va durer jusqu'en 2057. Le sentiment qui règne en Grèce, c'est qu'au bout de 9 ans de crise, les gens sont habitués à la morosité et qu'ils ont appris à la gérer au quotidien.
Angélique Kourounis à Athènes pour France Culture. Eux n'étaient déjà pas dans la zone euro et ils préparent leur sortie de l'Union européenne, les Britanniques. Et hier, la première ministre Theresa May a finalement remporté un vote crucial sur ce sujet, vote d'un texte qui doit permettre au Royaume-Uni de continuer à fonctionner normalement lorsqu'il aura quitté le bloc européen le 29 mars 2019. C'était il y a un an, jour pour jour, le 21 juin 2017, le jeune saoudien Mohamed Ben Salman, appelé aussi MBS, devenait prince héritier en titre, désigné par son père, le roi Salman, pour lui succéder. Clarence Rodriguez, bonjour.
Bonjour.
Vous avez vécu en Arabie Saoudite pendant 12 ans, correspondante de France Culture dans le pays. Certains médias ont beaucoup parlé d'une ouverture dans ce royaume longtemps figé. On pense à l'ouverture de salles de cinéma, à la conduite accordée aux saoudiennes. Sauf que Clarence, un an après, le bilan de Mohamed Ben Salman est contrasté.
Mais écoutez, on peut dire que c'est un bilan en demi-teinte. D'un côté, Mohamed Bin Salman, âgé de 32 ans, veut se présenter comme un prince moderne et réformateur. Et de l'autre, il phagocyte tous les pouvoirs et gare à tous ceux qui ne partagent pas sa vision, voire sa politique. Il n'hésite d'ailleurs pas à les jeter en prison pour les faire taire. La première purge a commencé il y a tout juste un an, lorsqu'il est devenu prince héritier à la place de son cousin Mohamed Bin Nayef, prince héritier en titre et puissant ministre de l'Intérieur. Ce dernier est depuis placé en résidence surveillée à Riyad. Trois mois plus tard, la purge concerne une quarantaine d'intellectuels et religieux modérés à ce jour, toujours en prison. Le 4 novembre, on se souvient de l'incarcération de princes et hommes d'affaires saoudiens dans la prison dorée du Ritz-Carlton. La presse internationale en a beaucoup parlé. Puis tout récemment, en mai dernier, l'emprisonnement de 12 activistes des droits de l'homme, dont une majorité de saoudiennes militantes au droit de conduire.
Et que pense Clarence, la population saoudienne de ce prince héritier et de ses réformes ?
La population saoudienne est divisée. Il y a ceux qui accueillent favorablement les réformes et ce sont les jeunes et certaines femmes. Je dis bien certaines, hein, pas toutes. Et il y a les conservateurs ou les religieux plutôt bousculés. Mais là, interdiction d'exprimer son désaccord publiquement. Les saoudiens ou saoudiennes que j'ai régulièrement au téléphone n'osent plus parler. Ils vivent dans la crainte, ils ont peur. Et malgré ce bilan mitigé, le prince héritier Mohamed Bin Salman tente coûte que coûte de séduire les investisseurs étrangers, pas forcément convaincus par la politique très contrastée menée par MBS.
Merci Clarence Rodriguez. L'Uruguay l'avait fait déjà. Le Canada va devenir donc le deuxième pays au monde à autoriser la consommation et la culture de cannabis à partir du mois d'octobre et ce, dès l'âge de 18 ou 19 ans selon les provinces. C'est le début de l'été, aujourd'hui, jeudi, qui marque aussi la fête de la musique. Des milliers de musiciens amateurs professionnels descendront donc dans les rues un peu partout en France. Et nous en profitons ce matin pour nous intéresser à la formation musicale française. Une pétition recueille en ce moment plus de 2600 signatures. Elle demande une revalorisation du diplôme d'études musicales. Aujourd'hui, seuls les conservatoires de Lyon et de Paris délivrent des masters. Alors, musicien, est-ce un vrai métier ? Question posée par Kevin Baudreau à Jean-Marie Siesca, directeur de conservatoire et ancien inspecteur au ministère de la Culture.
c'en est un, heureusement, puisque depuis très longtemps, des gens en vivent difficilement, parce qu'il est difficile de trouver des postes, tant dans des orchestres avec la concurrence internationale de haut niveau, que dans l'enseignement des conservatoires. Néanmoins, il est vrai que, par exemple, en Suisse, il y a des universités des métiers et donc des hautes écoles de musique très spécialisées dans la musique qui délivrent des diplômes de niveau licence, puis master, puis doctorat. C'est le cas aussi en Italie, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Angleterre. En France, récemment, depuis une dizaine d'années seulement, l'université et le ministère de la Culture se sont mis ensemble pour reconnaître cette formation supérieure. Donc c'est un vrai métier. Ensuite, quand les gens veulent enseigner, ils doivent passer par d'autres concours très complexes, très lourds, qui sont organisés très rarement, pour entrer dans la fonction publique territoriale. Donc c'est un vrai parcours du combattant.
Voilà pour les revendications de certains musiciens. La fête de la musique sous un grand soleil aujourd'hui partout en France, en dépit de quelques orages possibles sur le sud-ouest aujourd'hui. De quoi donc en profiter ce soir, ou profiter pourquoi pas du mondial de football? C'est selon, avec notamment un France-Pérou à 17h. Côté température assez douce, en matinée au dehors de la Loire, 16 degrés à Brest ce matin et à Lille, 19 à Paris, mais déjà 25 à Bordeaux et à Strasbourg, et 29 degrés ce matin à Perpignan.